Ordinateur. Voilà, et je vais penser à couper au milieu, parce que sinon ça fera un fichier trop volumineux. Donc très bien, ben, là nous sommes ici non plus pour parler de l'organisation du master, mais pour parler de management stratégique de l'innovation. Vous allez voir que le cours se déroule d'une façon un peu particulière à travers des exemples, mais je vais avant faire quand même une petite introduction. Parce que puisqu'on parle de management stratégique de l'innovation, on va définir un peu ce qu'est le management stratégique et en quoi il est influencé par l'innovation. Et puis après, je vous parlerai un petit peu de la structure du cours et aussi de la manière dont vous serez évalué dans ce même cours. Alors, du coup, qu'est-ce que le management stratégique? Globalement, de toute façon, je suis toujours un peu. Je ne suis pas un roi de la définition parce que les définitions varient souvent, hein, en management avec des petites nuances. Il y a des points communs, mais avec des petites nuances d'un auteur à l'autre. Donc voilà, je ne vous donne pas des séries de définitions. Et ben, le management stratégique, c'est typiquement quelque chose dont la définition n'est pas. N'est pas parfaitement ciselé et qui donne lieu à des interprétations légèrement différentes. Donc, même si là, je vais caricaturer un peu, on pourrait dire que pour certains, bah, finalement, c'est de la stratégie d'entreprise, hein, c'est un autre nom qu'on utilise pour dire stratégie d'entreprise. Donc, on doit se situer quand même plutôt. Au sommet sur les grandes décisions, les objectifs et les grandes options que l'on décide d'utiliser pour les atteindre. Et donc, si on reste dans ce domaine-là, on va être dans un ensemble de décisions. Alors, d'une manière générale, les décisions en management sont souvent complexes parce qu'il y a de multiples facteurs qui vont entrer en ligne de compte et les effets produits par telle ou telle décision ne sont jamais parfaitement, parfaitement anticipables. Ce qui va venir s'ajouter dans le cas de la stratégie, c'est la forte portée. Et en tout cas, quand les stratégies ont été vraiment mises en œuvre, un fort degré d'irréversibilité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est totalement irréversible, évidemment, mais ça veut dire que ben, le changement de direction est coûteux et souvent et prend le plus souvent du temps. Lorsqu'on parle de stratégie d'entreprise, on a également une distinction qui est souvent faite entre ce qu'on appelle la corporate strategy ou stratégie de groupe hein, et la stratégie au niveau des différents domaines d'activité stratégique. Donc, en gros, la stratégie de groupe, c'est principalement le choix des différentes activités, justement. Et puis quand même un certain nombre de politiques un peu centrales qui vont servir notamment à essayer de générer le plus de synergie possible entre ces mêmes activités. La business strategy, ben, on va se situer au niveau d'une des activités et on va essayer de prendre les décisions les plus pertinentes en termes de position, de positionnement concurrentiel, d'éléments différenciateurs, de ressources et compétences qui vont créer des avantages concurrentiels, etc. Donc on va se situer au niveau d'une de ces activités et on va essayer de prendre les décisions pertinentes pour permettre le développement de cette activité en particulier. J'en parle un petit peu parce que juste après, on va évidemment regarder quel est l'impact de l'innovation à ce niveau-là. Et il y a un impact différent selon qu'on se situe au niveau business ou au niveau corporate. Alors, pour d'autres, plus nombreux, je dirais quand même, c'est il y a vraiment, alors souvent pour comment dire illustrer ça, je dis pour les premiers, c'est management stratégique et puis il y a stratégie en majuscule et en gras. Et puis pour les deuxièmes, c'est du management. Et il se trouve que ce management, il est connecté à la stratégie. Donc le management, c'est définir des processus, des structures, des pratiques qui permettent de coordonner l'activité de multiples individus, hein. Et donc le management stratégique, c'est à ce moment-là l'articulation entre la stratégie, qui fait toujours partie du management stratégique, hein, et ces processus, structures, culture, etc., qui font vivre l'organisation. Donc on s'intéresse vraiment au fonctionnement de l'organisation. Alors, quelle clé d'entrée on va prendre, nous? On va plutôt avoir une entrée de type stratégie d'entreprise. Ce n'est pas parce que je pense que le management stratégique, c'est ça. S'il y avait deux camps, je serais plutôt dans le deuxième camp. Mais parce qu'au niveau du management de l'innovation, à part sur certains points, et que l'on va aborder du coup quand même, hein, on est quand même plutôt justement à ce niveau-là. Et plutôt d'ailleurs, je vous dirai dans l'introduction quelques mots sur la stratégie de groupe, mais on est plutôt quand même au niveau de la stratégie business. Donc, malgré tout, si vous voulez, il y a une dominante qui est plutôt la stratégie de l'entreprise, et on va quand même s'intéresser à des questions d'organisation, par exemple, quelle structure organisationnelle favorise le plus l'innovation, comment organiser des services de recherche et développement, etc. Donc on ne va pas non plus rester uniquement sur des problématiques purement stratégiques, mais on s'intéressera au management que quand il est directement lié à l'innovation. Donc voilà pour donner un petit peu le cadre, puisque le cours s'appelle Management stratégique de l'innovation. J'aurais pu l'appeler Management de l'innovation, il n'aurait pas été fondamentalement différent, parce que malgré tout, c'est l'innovation elle-même, hein, qui fait qu'on se positionne souvent assez facilement au niveau de la stratégie. Alors, maintenant, dans le cadre de cette introduction, je vais juste vous faire un petit panorama très global, hein, des liens entre innovation et stratégie. Et puis après, vous allez voir, le cours va rentrer dans beaucoup plus de problématiques et va rentrer véritablement dans les mécanismes et les phénomènes qui expliquent ce qu'on va dire là dans l'introduction. Mais c'est pour quand même poser un petit peu les bases et montrer pourquoi justement il y a des liens si forts entre innovation et stratégie. Alors, s'il fallait traiter de tous les liens entre innovation et business strategy, en fait, l'introduction serait effectivement une partie non négligeable du cours. Donc, on va le prendre sous un angle spécifique, sachant que tout au long du cours, on verra d'autres liens. Mais l'idée, c'est dès cette introduction de vous montrer qu'il y a des liens potentiellement forts entre les deux. Et ce, quelle que soit la stratégie choisie. Alors, pour ceux qui ont déjà fait des cours de stratégie, c'est de l'archi classique, hein, mais vous vous souvenez sans doute que selon Michael Porter, il y a deux grandes options, deux grandes stratégies génériques. Alors, il y en a trois, mais vous allez voir pourquoi je n'en parle que de deux. Et du coup, pour ceux qui se souviennent de leur cours de stratégie, quelles sont ces deux grandes stratégies génériques? Ça me permet d'humidifier mes cordes vocales. Oh, il n'y a pas zéro personne qui ont suivi des cours de stratégie. Il y a déjà tous ceux du M1, je vais vous dénoncer auprès de Denis Chabot si personne ne me répond. Déjà, après un quart d'heure de cours, je suis déjà dans les menaces. C'est triste. Attention parce que vous l'avez encore en cours, hein, Denis Chabot. Non, la menace n'a pas d'impact sur vous. Ce n'est pas la bonne méthode de management. Bon, voilà. Pourtant, elle n'était pas dure, ma question. Donc, c'est la domination par les coups et la différenciation. Peut-être que ce qui vous gênait, c'était le fait que je dise deux et pas trois. Donc, alors pourquoi je dis il y en a deux plus une et non pas trois? Ben vous allez voir après. Donc, en tout cas, on a le choix, selon lui, entre vendre un produit standard en essayant de le vendre au prix le plus bas possible, ce qui permet de faire du volume, le volume permettant lui-même de réduire les coûts. Par contre, évidemment, si on veut appliquer la stratégie de domination par les coûts, il ne faut surtout pas essayer de faire mieux ou d'introduire des choses qui augmenteraient le prix du produit standard. Donc, effectivement, on va avoir un produit plutôt banal. Et par ailleurs, on va tout mettre en œuvre pour réduire le plus possible les coûts de fabrication, de distribution, etc. Et puis, bah, la stratégie inverse. C'est de dire, moi, je vais faire en sorte que les clients soient prêts à payer plus cher pour mon produit. Pour que les clients soient prêts à payer plus cher pour mon produit, évidemment, il faut qu'il ait certaines caractéristiques spécifiques qui font qu'il est différent des autres et qu'il a une valeur supérieure pour le client. Et donc ça, c'est la stratégie de différenciation. Alors, ces deux stratégies, on peut soit l'appliquer sur l'ensemble d'un marché, un marché global, soit essayer de trouver un petit segment sur le marché qui n'intéresse pas spécialement les acteurs les plus importants parce qu'il est trop petit en volume, ce qu'on appelle une niche. Et c'est là ce qu'il appelle la stratégie de concentration, hein, mais comme concentration, ça a d'autres sens en stratégie. Je trouve que le traduire par stratégie de focalisation est plus pertinent. On trouve les deux traductions, mais donc c'est pour ça que souvent on présente les trois stratégies génériques de porteur, domination par les coûts, différenciation, focalisation, sauf qu'une fois que vous avez choisi de faire une stratégie de focalisation, bah vous devez encore choisir entre la domination par les coûts et la différenciation. Sur votre niche, vous allez devoir encore choisir entre les deux. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle ne se situe pas au même niveau. Il y a vraiment deux grandes stratégies qui s'opposent. D'un côté, différenciation et domination par les coûts. Et de l'autre, c'est soit appliquer sur un marché global, soit appliquer sur une niche. Alors, bah, on va s'intéresser à la manière dont l'innovation, alors ici technologique, peut contribuer à chacune de ces stratégies. Alors, ça me permet aussi de rebondir sur un point. On va beaucoup parler d'innovation technologique, mais pas seulement. C'est bien management stratégique de l'innovation et pas de l'innovation technologique. Tout simplement parce que généralement les innovations technologiques, ce sont les plus complexes, c'est celles pour lesquelles on va avoir, par exemple, les questions d'industrialisation les plus complexes à mettre en œuvre. C'est là où la gamme des droits de propriété intellectuelle que l'on peut mettre en œuvre est la plus large. Donc en fait, si on a les éléments clés pour faire de l'innovation de produits, de procédés, en tout cas sur de l'innovation technologique, on va aussi, de fait, avoir étudié les éléments qui s'appliquent à des innovations non technologiques. Simplement, certains des éléments de l'innovation technologique ne s'appliqueront pas à une innovation non technologique. Donc c'est pour ça que la dominante dans le cours sera technologique, mais c'est une dominante, c'est pas une exclusivité. Mais ici, dans cette partie-là de l'introduction, on va plutôt s'intéresser à l'innovation technologique. Alors, de quelle manière l'innovation peut contribuer à une stratégie de domination par les coûts? Déjà, est-ce que vous avez des idées comme ça, spontanément? Vous êtes un groupe timide. Souvent, quand on pense innovation et domination par les coûts, on a tendance plutôt à penser innovation de procédé, c'est-à-dire des innovations qui sont apportées aux machines, aux équipements utilisés, mais aussi à l'organisation du travail, en tout cas qui touchent au processus de fabrication. Et souvent, on étend fabrication et toute la logistique qu'il y a autour, distribution, approvisionnement, etc. Parce que souvent, voilà, pour réduire les coûts, c'est plus souvent à ce type d'innovation que l'on a recours. Néanmoins, certaines innovations de produits peuvent aussi avoir pour effet de réduire les coûts. Un exemple un peu ancien mais célèbre, c'est la montre Swatch qui comportait 2 fois moins de composants, de pièces, qu'une montre suisse classique, alors que c'est une montre analogique. Alors certes, il y a aussi eu autour de la Swatch des innovations de procédés. On pourra en reparler justement quand on évoquera les liens entre les deux. Il y a souvent, quand on modifie en profondeur un produit, on est conduit à modifier le procédé des modifications des procédés peuvent conduire à des modifications du produit. Donc ce n'est pas deux choses totalement indépendantes, même si des fois il peut y avoir des innovations de procédés pures et dures et des innovations de produits pures et dures. Mais par ailleurs, même s'il n'y avait pas eu les innovations de procédés, le fait d'avoir 2 fois moins de pièces en mouvement dans la montre aurait réduit les prix de toute façon. Pas autant qu'en combinant les deux, mais ça aurait réduit les prix. Alors pour la différenciation, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que souvent, spontanément, on va plutôt penser aux innovations de produits, puisque c'est celles qui sont visibles par le client ou le consommateur. Or, on a dit que le principe de la stratégie de différenciation, c'était d'apporter une valeur supplémentaire au produit pour que le client ou le consommateur soit prêt à payer plus cher. Donc évidemment, on se dit, logiquement, il faut que ça touche le produit. C'est vrai, mais sauf que là aussi, on peut quand même utiliser en complément les innovations de procédés. Ça peut contribuer à augmenter la qualité. Par exemple, la robotisation des chaînes de fabrication automobile ont contribué à ce que les véhicules soient plus fiables, parce qu'il y avait moins de... Enfin, les robots pouvaient faire certaines opérations avec une moindre tolérance. De même, c'est parce qu'on a utilisé des robots pour la peinture qu'on a pu utiliser certains produits chimiques qui évitent que les voitures rouillent maintenant. Et puis, dans la différenciation, même quand on est sur du produit physique, on a généralement autour d'un produit toute une série de services. Et donc, par exemple, la capacité à livrer rapidement un produit qui est conçu, enfin, sur lesquels vous avez choisi, dont vous avez choisi chacun des composants, c'est un des atouts de Dell. Et ça vient d'une série d'innovations de procédés autour notamment de son système d'information et de son système logistique. Enfin, pour la focalisation, alors Je ne me contredis pas, hein. Après, de toute façon, dans le cadre de votre focalisation, bah, vous allez soit chercher principalement à réduire les coûts, soit principalement à rajouter de la valeur au produit. Il n'empêche qu'il y a des choses qui sont un peu spécifiques à cette question de la focalisation. Et là, on rejoint pas mal la question de la flexibilité. C'est-à-dire qu'il y a certaines technologies qui, pour permettre d'augmenter, alors très souvent, c'est la productivité. Hein, donc vous allez sortir, par exemple, beaucoup plus d'unités du produit chaque jour. Et ça a pour effet de réduire les coûts. Mais ça conduit aussi souvent à une forte spécialisation, dans la mesure où souvent ces machines qui sont conçues pour être extrêmement productives, elles sont la plupart du temps aussi très spécialisées. Donc du coup, ça limite un petit peu les changements que vous pouvez apporter après à votre procédé et à vos produits d'ailleurs. Et du coup, bah, en augmentant la spécialisation, ça peut ouvrir davantage de niches, parce que c'est plutôt les grands acteurs sur le marché qui font des gros volumes, qui vont s'acheter ces machines à très très fort débit de production. Et du coup, bah, les petites niches à faible volume ne vont pas les intéresser spécialement, puisque de toute façon, leurs machines ne sont pas faites pour ça et ne sont pas assez flexibles pour y répondre. Donc là, ça va plutôt ouvrir des opportunités de focalisation. Mais à l'inverse, des fois, il veut bien que j'utilise les flèches et d'autres fois, non. Il y a certaines autres technologies de production, par exemple les machines-outils à commande numérique, hein, MOCN, c'est machines-outils à commande numérique, où les robots sont au contraire souvent des systèmes qui peuvent être réglés de façon plus rapide que les machines classiques. Donc on peut passer de manière plus rapide d'une série de produits avec certaines caractéristiques à une autre série de produits avec d'autres caractéristiques. Ce qui veut dire qu'au contraire, ça donne plus de flexibilité. Et si ça donne plus de flexibilité, ça veut dire aussi que ça peut rendre rentable des niches pour des acteurs généralistes. Et puis alors, pour comment dire, compliquer le tout, vous allez avoir certaines innovations technologiques qui vont carrément brouiller les frontières entre ces stratégies génériques. Parce que chez Porter, tout est bien net. Si vous faites de la domination par les coûts, il ne faut surtout pas faire de la différenciation en même temps, parce que sinon, vous allez être quand même plus cher que ceux qui font de la vraie domination par les coûts. Du coup, vous n'allez pas être compétitif par rapport à eux, et en même temps, vous ne serez pas suffisamment différencié par rapport à ceux qui font que de la différenciation. Et du coup, vous serez bon ni dans un domaine ni dans l'autre. Hein. Il disait, vous serez collé au milieu, hein, stuck in the middle, et il faut surtout pas faire ça. Mais alors du coup, oui, mais si on a des technologies qui vous permettent simultanément de réduire les coûts, d'augmenter la qualité et d'augmenter la flexibilité, bah, à ce moment-là, c'est des technologies qui peuvent vous permettre potentiellement de faire toutes les stratégies en même temps. Donc, bah, ce n'est pas non plus un hasard, même s'il y a d'autres facteurs qui ont joué, hein, dont l'augmentation des volumes. Mais si par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui des SUV, auparavant, enfin il y a longtemps maintenant, il y a quelques décennies, c'était vraiment une niche. Il y avait un segment du marché qu'on appelait les 4x4, parce que toutes ces voitures-là avaient 4 roues motrices, et qui étaient tenues en fait par des marques spécifiques, comme Land Rover par exemple. Et les constructeurs généralistes trouvaient que les volumes n'étaient pas suffisants pour qu'ils s'y intéressent. Et puis, bah, alors encore une fois, il n'y a pas que la partie technologique qui a joué, mais néanmoins, ils ont introduit des technologies qui ont permis de faire davantage de différenciation sur des modèles. En parallèle, ils ont modifié un peu leur ingénierie, ça on aura l'occasion d'y revenir, mais plutôt dans le cours sur le management de projets innovants, 21e siècle. Donc ils ont un peu modifié leur méthode d'ingénierie, ce qui a fait qu'ils ont simultanément pu standardiser certaines choses et différencier d'autres. Et le résultat, c'est que ils se sont tous un par un intéressés à ce segment au fur et à mesure, par ailleurs, que le segment augmentait en volume. Et puis, du coup, par ailleurs, enfin, d'une façon plus générale, c'est pas par ailleurs, d'une façon plus générale, du coup, ces technologies peuvent contribuer à augmenter un petit peu la gamme des stratégies génériques qui sont viables par rapport. Il ne faut pas oublier que Porter, ses grands principes datent de 1980. Ça fait quand même presque 45 ans. Alors, il y a certaines choses qui sont un peu, pas qui ne bougent pas trop dans les théories en économie industrielle ou en stratégie, mais il y en a d'autres où l'environnement change de sorte que des choses qui étaient plutôt vraies, même si on pourrait le discuter déjà, mais qui étaient plutôt vraies au début des années 80, ne sont plus forcément, pardon, aujourd'hui. Et alors, ça a donné, certains auteurs, chercheurs se sont risqués à dire, bon, maintenant, faut peut-être sortir quand même des seules stratégies de Michael Porter. Et montrer qu'il y a un peu plus de choix en réalité. Parmi les auteurs qu'on va le plus souvent prendre comme référence dans ces cas-là, il y a Bowman et Faulkner. Alors, le pauvre Faulkner, souvent, il est oublié, hein, donc souvent, on dit l'horloge de Bowman. Bon. J'avoue ne pas savoir si c'est parce que tout à fait à l'origine le premier à l'avoir fait était Bowman ou si c'est par simplification. Et alors qu'est-ce qu'ils nous disent, Bowman et Faulkner? Et donc il nous faut un beau schéma avec d'un côté des prix, soit faibles, soit élevés, soit moyens au milieu, et une valeur, soit faible, soit élevée, soit moyenne au milieu. Évidemment, si vous voulez vendre à un prix élevé un produit qui a une valeur faible à moyenne, ça peut parfois marcher un tout petit peu au début, avant que les personnes se rendent compte de la faible valeur de votre produit, hein. Ça peut marcher aussi dans le cas d'escroquerie. Mais alors, comme nous, on va quand même plutôt faire un cours sur, puis globalement, le master est quand même plutôt pour comment faire du management, de la stratégie, du business, si on veut faire simple, de créer des entreprises de façon honnête. Du coup, on va laisser de côté les stratégies d'escroquerie. Donc ça nous donne la partie en bas à droite, hein, de stratégie que du coup on ne va pas examiner. Et on va s'intéresser aux stratégies viables. Alors dans les stratégies viables, il y a nos deux grandes stratégies génériques de Porter. Si on est... Ah oui, non, là il ne veut pas de mes flèches. Donc souris. Voilà. Donc si on a un produit standard avec un prix faible, on est dans la stratégie de domination par les coûts, telle que l'a décrit Porter. Hein, puisque lui, il ne parle pas d'un produit dégradé, hein. Il parle du produit standard, une sorte de produit moyen, hein, banal, ayant toutes les caractéristiques qu'on attend normalement du produit en question sur le marché, mais surtout pas plus. En tout cas, si c'est coûteux, pas plus. Et puis par ailleurs, on essaye de réduire les coûts, surtout par le volume. Et puis on a le produit cher avec une valeur perçue élevée, donc que Bowman et Faulkner appellent la sophistication avec surprise, qui correspond tout à fait à la description de la stratégie de différenciation de Porter. Donc là, pour l'instant, Rien de nouveau à l'horizon. Mais voilà, il nous reste trois autres flèches. Alors, que nous disent ces trois autres flèches? Ils nous disent qu'il peut y avoir une stratégie assez agressive quand on veut prendre des parts de marché, hein, qui consiste à faire de la sophistication sans surprise. Alors, en général, comme la sophistication a quand même un coût, c'est pas forcément une stratégie qu'on va garder sur le long terme, mais ça peut être une stratégie transitoire, justement pour se positionner de manière forte sur un marché. Alors de manière assez intéressante, sans le savoir, très souvent les étudiants entrepreneurs, quand ils me proposent des projets au début, très souvent ils disent, ben voilà, on va proposer un service de qualité, mais on veut que ce soit accessible pour tout le monde. Donc ils proposent très spontanément la sophistication sans surprise. Et puis après, quand on par exemple dans leur business plan, on s'aperçoit que bon, ça peut marcher encore tant qu'ils se payent pas, tant qu'ils payent très mal leurs salariés, quand ils n'ont pas oublié les charges sociales. Et donc voilà, l'entreprise tient sur ce type de stratégie-là aussi parce qu'il y a des oublis ou en tout cas une situation qui n'est pas tenable sur le long terme. Ensuite, autre stratégie, alors celle que Porter disait qu'il fallait éviter à tout prix, c'est ce qu'on appelle une stratégie hybride. Elle consiste à avoir un produit qui est globalement bon marché, mais qui a quand même certaines caractéristiques différenciantes. On pourrait citer comme exemple IKEA, qui va avoir, alors à l'origine quand même, il est plutôt sur la domination par les coûts combinée à celle que vous ne voyez pas encore. Néanmoins, avec le temps, il a rajouté des petits éléments un peu spécifiques. Alors d'une part, il y a quand même une recherche d'un design un tout petit peu soigné, il y a quand même la recherche évidemment, ce n'est pas des meubles hyper solides, mais ce n'est pas non plus les plus fragiles qu'on peut trouver sur le marché. Donc vous voyez, c'est pas non plus. Et puis, bah, il y a le petit côté suédois, hein, donc qui donne un petit côté. Voilà, alors est-ce que ça augmente la valeur perçue, le côté suédois, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est un élément qui les différencie des concurrents. Autre exemple qui est vraiment là dans les Toyota, pendant très longtemps, et là je parle pas de l'hybride au sens moteur hybride, hein. Je parle du positionnement concurrentiel de Toyota depuis bien plus longtemps. Alors maintenant, d'ailleurs, ils ont un positionnement qui est un peu plus innovant et qu'ils ont réussi à asseoir justement, pour le coup, avec les moteurs hybrides. Mais déjà avant, Toyota était une entreprise considérée comme peu innovante, mais par contre, dont les voitures étaient fiables. Donc on a bien, ça donne de la valeur perçue, hein, une voiture fiable. Et pour autant, c'était des voitures relativement bon marché. En tout cas, c'était pas de la voiture low cost, hein, mais c'était de la voiture qui était tout à fait dans les prix du marché, avec des modèles d'entrée de gamme très accessibles. Donc c'est ça qu'on va appeler une stratégie hybride. Et vous voyez que quand vous commencez à intégrer des technologies qui vous permettent d'intégrer des éléments différenciants sans pour autant augmenter trop les coûts, bah ça facilite le fait de mettre en place une stratégie hybride. Et ça peut expliquer que pour Porter, ça soit difficile à concilier, même si encore une fois, en 1980, on pouvait déjà considérer que Toyota était sur une stratégie hybride et commençait à avoir pas mal de succès. Ce n'était pas encore le premier constructeur mondial, hein, c'était loin de ça, mais quand même, c'était une entreprise qui commençait à être connue. Mais néanmoins, c'est vrai que ces stratégies sont rendues encore plus viables par certaines technologies d'aujourd'hui. Et puis, enfin, la stratégie qui consiste à dégrader le produit standard pour proposer un coût encore plus faible. Donc ça, c'est une stratégie qu'on nomme stratégie d'épuration, puisqu'elle consiste à se dire, parce que ce qui se passe assez souvent, c'est que bah, sur un marché, vous allez avoir à un moment donné des entreprises qui vont faire de la différenciation avec surprix. Donc elles vont proposer certaines caractéristiques dans leurs produits que n'ont pas les autres. Généralement des fonctions, par exemple, que n'ont pas les autres produits. Et puis, bah, peu à peu, le coût de mise en œuvre de ces fonctions va diminuer, hein, par le phénomène de la courbe d'expérience pour ceux qui connaissent déjà, et puis on aura l'occasion d'en reparler pour ceux qui ne connaissent pas déjà. Et donc, bah, finalement, ces fonctionnalités, elles deviennent accessibles pour des entreprises, alors qui auraient une stratégie hybride, si on la considère comme déjà viable. Ou par des entreprises qui auraient une différenciation, mais un peu moins poussée. Puisqu'en réalité, évidemment, hein, vous avez tout un continuum, hein, vous n'avez pas soit l'ultra-luxe, soit la domination par les coûts, vous avez toute une série de degrés, évidemment, entre les deux. Et du coup, bah, peu à peu, ces fonctionnalités, elles deviennent plus banales. Quand elles deviennent plus banales, bah, elles sont intégrées dans le produit standard. C'est-à-dire que même les entreprises qui pratiquent la domination par les coûts finissent par intégrer ça dans leur produit. Et du coup, bah, peu à peu, un produit donné, il va finir par avoir tendance à se sophistiquer au fil du temps, toujours plus. Si bien que ça peut laisser de la place, au bout d'un moment, à une stratégie qui consiste à dire, mais finalement... est-ce qu'il y a vraiment besoin de cette fonctionnalité-là? Est-ce que ça, c'est vraiment essentiel? Etc. Et du coup, à enlever, à barrer, en quelque sorte, certaines des fonctionnalités un peu secondaires auxquelles on s'était habitué, mais qui ne sont pas absolument indispensables, qui ne font pas partie du cœur de service. Donc, ça va être ne plus servir de repas en vol si on prend une compagnie low cost. Ça va être enlever certaines fonctionnalités classiques des véhicules sur des modèles type Dacia. Ça va être, etc. Alors, assez souvent, on va avoir des stratégies qui vont être... une combinaison un peu de domination par les coûts et d'épuration, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'épuration mais qui ne touche pas l'essentiel. Et puis en même temps, on va aussi chercher à faire du volume, à jouer sur d'autres sources de coûts que simplement le fait qu'on ne présente plus tel ou tel service. Donc c'est pas pour le, en l'occurrence, c'est vraiment pas des stratégies qui s'opposent. Et donc, alors, en quoi l'innovation technologique peut aider à l'épuration? Bah, finalement, assez peu directement, puisque justement, c'est souvent des stratégies de désophistication, mais ça peut aider de deux façons. Alors, soit quand l'innovation conduit à simplifier le produit, le cas de la Swatch, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, même si là, en l'occurrence, ça doit pas, dans le cahier des charges de la Swatch, ça ne doit pas réduire. Donc, ce n'est pas un super bon exemple, en l'occurrence, parce que ça devait être aussi fiable qu'une montre classique suisse, aussi précis ou presque, etc. Donc, ça peut être soit par une simplification radicale du produit, qui peut en soi être une innovation, et puis... Finalement, c'est aussi la sophistication permanente qui conduit à laisser de la place, donc c'est un peu indirect, hein, mais qui conduit à laisser de la place aux stratégies d'épuration. Donc voilà pour notre petite gamme de stratégies. Donc évidemment, on n'a pas fait le tour de tous les éléments clés de ce qu'on appelle business strategy, hein. Et d'ailleurs, là, pour le coup, Il y a certains éléments que l'on va voir parce qu'ils sont liés à l'innovation pendant le cours. Il y a aussi des innovations importantes en stratégie qu'on ne reverra pas parce que vous les avez vues en M1 pour ceux qui viennent de M1, en équivalent pour tous ceux qui viennent de gestion, et que vous êtes censé les avoir acquis par vous-même ou à côté, ou que vous allez les acquérir progressivement dans l'année, hein. C'est bien que ce n'est pas en vous donnant il y a 3 semaines les principales ressources que vous avez déjà absolument tout ingurgité et que vous êtes déjà spécialiste. Donc évidemment, vous allez pouvoir faire ce rattrapage tout au long de l'année, mais il n'empêche que voilà, il y a certains éléments de la stratégie évidemment qu'on ne reverra pas dans le cadre de ce cours de management stratégique de l'innovation. Mais voilà, j'espère vous avoir déjà démontré qu'en termes de stratégie business, eh bien, l'innovation peut avoir un impact. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais alors, pour la stratégie de groupe, c'est quand même, enfin, comme ça paraît quand même beaucoup plus éloigné. En quoi l'innovation peut influencer le choix des activités, et notamment l'innovation technologique. Eh bien, alors vous allez comprendre le titre après, hein. Évidemment, comme ça, le titre, Corporate Strategy et Bonsai, ça parle pas forcément beaucoup. Et en fait, ce titre, il vient justement de ce GEST, qui était un groupe de chercheurs, dont certains étaient à Paris-Sud d'ailleurs, l'ancêtre de Paris-Saclay, enfin un des ancêtres de Paris-Saclay. Et donc, il avait proposé justement une approche où la maîtrise de certaines technologies jouait un rôle central dans la stratégie de diversification des entreprises. L'idée, leur thèse de base, c'était de dire, voilà, il y a une entreprise, elle va maîtriser un certain nombre de technologies. Et puis, c'est les combinaisons de ces technologies qui vont pouvoir donner des produits. Et donc, à partir d'un certain nombre de technologies, alors qu'ils vont appeler eux technologies génériques, parce que pour eux, ça veut dire technologies qui ont plusieurs applications. Alors attention, parce que en général, ça a un autre sens, hein. Dans la plupart des cas, ce qu'on va appeler stratégie générique, pas stratégie, technologie générique, c'est les technologies qui sont maîtrisées par tout le monde. Donc là, c'est pas dans ce sens-là, hein. C'est dans le sens de technologies qui peuvent donner lieu à plusieurs applications différentes. Et donc l'idée, bah, c'est justement d'essayer de trouver les différentes combinaisons que l'on peut faire pour pouvoir utiliser cette grappe technologique pour et bien essayer d'avoir le maximum d'applications de ce que l'on peut maîtriser. Alors bon, ça c'est resté franco-français, hein, c'était bah, connu dans le monde de la recherche en France, sans doute francophone chez les Québécois également, mais voilà, c'est pas sorti, à ma connaissance, ils n'ont jamais sorti ces travaux-là en anglais, donc du coup ça n'a jamais été diffusé au niveau international. Et puis du coup, a priori, sans avoir jamais lu hein, les travaux du GEST, il y a alors un chercheur et un consultant, en gros, en stratégie qui, eux, sont très connus et qui avaient déjà fait parler d'eux, qui, en 1990, ont sorti dans la Harvard Business Review un article où ils préconisent le fait qu'une entreprise doit déployer sa stratégie autour de ce qu'ils appellent des compétences fondamentales ou compétences cœur, core competencies en anglais. Alors, ces compétences ne sont pas nécessairement liées à l'innovation ou à la technologie. Hein. Chez Hamel et Prahalad, ça peut être n'importe quel type de savoir-faire au niveau de l'organisation. Mais en même temps, Les exemples qu'ils donnent dans leur article, pourrez-vous mettre l'article sur le e-campus, sont finalement très technologiques. Et notamment, ils prennent l'exemple de Sony. Or, très souvent, les entreprises que l'on prend comme exemple pour avoir fait ça sont très souvent des entreprises japonaises. Et c'est le cas du GEST, et c'est pour ça qu'ils avaient utilisé le terme de stratégie du bonsaï. L'idée, c'est que vous avez des technologies, décidément, des technologies racines, hein, les plus génériques, et puis après, vous avez un tronc, et puis vous avez de multiples branches. Donc ça, c'est les activités, les branches, et puis les feuilles, c'est les produits. Donc il y avait un peu cette idée. Alors la seule chose, c'est que normalement c'est pas pour rester petit, alors que le bonsaï, lui, il est censé rester petit. Mais du coup, il y avait cette image de l'arbre plus le côté exemple venu du Japon, et c'est pour ça qu'ils avaient appelé ça stratégie du bonsaï. Voilà. Alors Amel et Prahlad ne reprennent pas du tout le vocabulaire. Hein. Mais du coup, allez, je reprends du coup deux autres auteurs japonais, dont le premier est très connu au passage, hein, notamment spécialiste de knowledge management, qui dans leur ouvrage phare un petit peu, détaille justement des exemples d'entreprises qui ont développé l'ensemble de leurs activités autour de compétences technologiques cœur. Et donc pour illustrer un peu ce que je vous dis qui peut paraître un petit peu abstrait, voici les deux exemples issus de leur ouvrage. Donc l'exemple de Kao, qui est une entreprise de chimie, hein, et qui, alors vous voyez au centre, ce sont les compétences, donc catalyse, activité de surface, séparation, purification, ingénierie des réactions. Ingénierie de fabrication, bon ça c'est un peu large, mais etc. Dermatologie, culture des tissus. Donc là, on a un certain nombre de savoir-faire dans l'ensemble plutôt technologique, hein. Après, sur le cercle, vous avez les grandes catégories de secteurs, les spécialités, les enzymes, etc. Et puis après, vous avez les gammes de produits. Donc ces compétences, là, vous pouvez les décliner sur des produits d'hygiène, des produits de nettoyage de surface, des produits huileux et graisseux, de la chimie fine, des polymères fonctionnels, etc. Je ne vais pas vous lire chacune des... Mais vous voyez que ça conduit à des produits qui sont de nature assez différents. Et donc avec des réseaux de distribution différents, etc. Donc on pourrait... Si on n'a pas ce raisonnement en termes de compétences cœur, on pourrait se dire que c'est une sorte de conglomérat, KO, qui a pas trop, où il n'y a pas trop de lien entre les activités. Alors qu'en réalité, il s'est développé autour d'un certain nombre de compétences. Alors, ça ne veut pas dire qu'on utilise toutes les compétences pour toutes les activités, hein, mais voyez que pour les produits d'hygiène, on va à la fois utiliser du design moléculaire et de la détermination des structures chimiques. Détermination des structures chimiques qui vont aussi servir dans les produits ménagers. Voilà. Et puis, c'est une autre forme de présentation, parce que là, cette fois, elle est plus chronologique, hein. Il n'y a pas les compétences cœur au milieu, mais en gros, ce qui est résumé, c'est Sharp, c'est tout ce qui tourne autour de l'optoélectronique. Et à partir de là, on a du traitement de données, etc., de la transmission de données, des entrées-sorties et de l'accumulation, donc de l'enregistrement. Sharp va appliquer de l'optoélectronique à tout ça. Et simplement, là, dans le schéma, ça va de l'existant jusqu'au futur. Alors, c'est le futur de l'époque, hein, c'est le futur de 97. Actuellement, vous allez avoir, enfin, l'actuellement de l'époque, vous allez avoir les CD-ROM, par exemple, du côté de l'enregistrement, des disques photo, les CDI, etc. Et puis, vous voyez par exemple que dans le futur, il y a les appareils à laser bleu, ce qui est plutôt bien vu parce qu'effectivement, du coup, le Blu-ray, hein, tout ce qui est lecteur Blu-ray, c'est effectivement des appareils qui utilisent les systèmes à laser bleu. Donc, et Sharp était positionné sur ces technologies-là. Donc voilà, là encore, je ne vais pas faire le tour, mais vous voyez qu'il y a quand même une multitude de produits qui combinent de l'optique et de l'électronique. Ouais, allez, je vous parle de l'innovation stratégique. Alors, je vous rassure, on fera une petite pause, hein, on fait toujours une petite pause. Mais en général, je me dis que souvent la deuxième partie d'un cours est plus difficile. Enfin, on a plus de mal à rester bien concentré que la première partie. Donc, je fais exprès de dépasser un tout petit peu la moitié. Puis là, ça tombera bien parce qu'après l'innovation stratégique, on passera de quoi on va parler dans ce cours. Mais rassurez-vous, on fait bien une pause, malgré tout, à peu près au milieu. Donc alors là encore, innovation stratégique, c'est comme management stratégique, pas non plus de définition que tout le monde reconnaît. Ce qu'on peut dire globalement, je pense que personne ne dira non, non, c'est pas ça, c'est que ce sont des innovations qui vont changer les règles du jeu, on va dire les règles du jeu business, hein, dans un secteur d'activité ou sur un marché. Alors, il y a une dimension aussi qui est importante dans l'innovation stratégique, c'est que ce changement des règles du jeu, en règle générale, il est intentionnel. Même si parfois il peut se faire dans un premier temps avec des tâtonnements, hein. Mais à un moment donné, ça va devenir clairement, je ne vais pas jouer avec les mêmes règles que les autres. Et donc, c'est relativement important parce que, effectivement, pendant très longtemps, l'une des thématiques principales de la stratégie d'entreprise, c'était de bien s'adapter à son environnement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'une grosse partie des travaux en stratégie consiste en des outils, des méthodes, etc., pour analyser l'environnement. Et là, au contraire, on est typiquement donc dans une approche dite d'intention stratégique, terme d'ailleurs strategic intent, qui a été popularisé par les mêmes Hamel et Prahalad, hein, que j'ai cité tout à l'heure. Et donc là, si l'environnement ne correspond pas bien à notre. Alors, si je caricature un peu, hein, ok, moi je voudrais faire ça. Ah, ok, ça ne correspond pas à l'environnement. Du coup. Je ne vais pas changer ma stratégie, je vais changer l'environnement. C'est un peu plus, un peu plus complexe que ça. On est bien obligé d'intégrer certains éléments de l'environnement quand même, hein. Mais quand même, globalement, c'est un peu l'idée. C'est un peu comme si vous étiez sportif, vous jouez au tennis de table. C'est redevenu très populaire depuis les JO. Vous apercevez que quand même, vous êtes un peu nul en revers. Et donc vous dites, maintenant, écoute, on va jouer au tennis de table, mais c'est un tennis de table particulier. Dans ce tennis de table-là, on n'a pas le droit de faire de revers. Et là, vous mettez à gagner. Donc, évidemment, c'est caricatural, mais il y a un peu de ça. Donc concrètement, ça va être des innovations donc là, qui peuvent avoir une dimension technologique, mais pas forcément. Et donc là, on n'est pas du tout centré sur une innovation technologique en particulier, hein. Donc ça peut être un nouveau modèle d'affaires. Donc un nouveau modèle d'affaires, ça peut parfois être permis par de la technologie et parfois il n'y a pas besoin. Derrière, il y a cette idée aussi qu'on va modifier les facteurs clés de succès sur le marché, hein, autre concept que l'on doit à Michael Porter. Donc, on va parfois changer complètement les facteurs clés de succès, parfois au moins changer leur hiérarchie, lesquels sont les plus importants. Et puis parfois, ça va aller jusqu'à changer les frontières du secteur. Par exemple, conduire à fusionner deux secteurs qui jusque-là étaient considérés comme bien séparés. Alors, quelques exemples pour être encore plus concret. Donc je les emprunte, enfin ils sont assez connus de toute façon, mais là en l'occurrence je les emprunte à Kim et Mauborgne, mais bon, ce n'est pas eux qui les ont spécialement, enfin d'autres les avaient mis en avant. Donc par exemple, dans un monde où avant on vous livrait votre meuble, on vous le montait quand même, payait cher, on ne va quand même pas vous demander de bricoler vous-même. IKEA, lui, propose à ses clients de monter les meubles eux-mêmes. Donc à l'origine, c'est bien une stratégie d'épuration, puisqu'en fait, on a un service qui est la livraison et le montage qu'on enlève. Et puis on dit, débrouillez-vous avec ça, on vous donne une notice, et puis c'est tout. Et donc au départ, c'est bien une stratégie d'épuration. Après, ça va s'accompagner d'éléments de stratégie de domination par les coûts, parce qu'on va standardiser au maximum toutes les pièces, etc., pour jouer sur le volume. Et puis après, je vous l'ai dit, on va introduire un peu d'hybride en améliorant le design, etc. En tout cas, à la base, c'est aussi une innovation stratégique, puisque du coup, on change complètement, c'est-à-dire que cette qualité du service de la livraison, mais les délais de livraison, ou même d'ailleurs la qualité même du meuble, puisque le meuble d'avant IKEA, il est censé durer toute une vie en gros, hein, parce que c'était un gros investissement, donc ça se léguait même souvent de génération en génération. Le meuble IKEA, bon, on pense pas forcément qu'on va le léguer à ses petits-enfants. Mais comme il a coûté beaucoup moins cher, par ailleurs, c'est pas un souci. Donc ça change complètement les facteurs clés de succès sur le marché. Enfin, complètement. Ça change une partie des facteurs clés de succès sur le marché. Autre exemple, une compagnie aérienne qui va faire du système de réservation un facteur clé de succès sur le marché. Donc c'est American Airlines qui a été la première à introduire un système sophistiqué de réservation qui permet de faire varier les prix en fonction du taux de remplissage d'un avion à telle date. Ce qui permet à la fois de maximiser la valeur que l'on peut tirer d'un vol, hein, le fameux yield management, hein, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et qui en même temps maximise de fait le taux de remplissage des avions. Et qui fait que des fois, vous êtes assis à côté de quelqu'un qui a payé son billet deux fois plus cher ou deux fois moins cher. Or ça, c'est des systèmes qui n'existaient pas avant, alors qui a été permis au passage quand même là par les progrès de l'informatique. Mais autre innovation dans le secteur du transport aérien, qui cette fois n'a pas de dimension technologique, hein, c'est une compagnie aérienne qui, au lieu de développer les liaisons entre des grands aéroports, va développer plutôt des liaisons directes entre des aéroports qui peuvent très bien être des aéroports secondaires, l'idée étant à la fois d'avoir une stratégie un peu d'aller chercher les clients négligés par les grandes compagnies aériennes, mais aussi de réduire les coûts, parce que quand Ryanair pose ses avions à Beauvais, ça lui coûte beaucoup moins cher que quand il les pose à Roissy. C'est un peu moins pratique aussi, mais du coup, voilà, vous avez une stratégie d'épuration. Southwest Airlines, c'est en fait le pionnier, hein, du transport aérien low cost. Ryanair et EasyJet sont ces copieurs européens, en quelque sorte. Et enfin, un cirque pour adultes, hein, sans animaux, Donc là, il n'y a pas du tout de technologie, hein, et c'est bien une innovation stratégique dans le monde du cirque. Donc voilà pour que vous puissiez un petit peu, par des exemples concrets, bah, appréhender ce que c'est qu'une innovation stratégique. Là, je vous propose cette fois de faire une petite pause de 5-10 minutes. Et puis bah, on se retrouve après.